Bonjour à tous, bienvenue sur Bac FM. Je m'appelle Thomas et je suis accompagné d'Anaïs. Bonjour Anaïs.
Bonjour Thomas, nous venons du collège Jean Jaurès à Guérigny. Nous sommes là pour vous parler de notre journée à Paris qui était extraordinaire.
Noah et Noam ont interviewé Marc Bombard.
Noah et Pierre vont vous parler de Simon Boll.
Jade et Nuno présenteront le plateau de l'équipe, la mise en situation, les règles et l'interview avec Blandine d'Alençon.
À la fin, Mathilde et Charlotte, qui sont nos camarades, vont vous raconter une anecdote. Repas avec des policiers, manger avec un bébé et le retour en bus et la présentation de l'après-midi à France TV.
Et tout de suite, Aza et Noélie vont vous raconter le bus aller, le petit déjeuner, le lavage des mains dans la salle de maquillage.
Bonjour à tous et à tous, ici les stars, Noélie et Azaï qui vont vous raconter les meilleurs potins de la matinée à Paris. Installez-vous confortablement et évitez d'écouter avec de l'eau dans la bouche.
Nous allons commencer par vous raconter l'anecdote d'Anaïs qui a commencé à saigner du nez dès le début du trajet en bus vers 5h du matin. Elle s'est taché son pull et son pantalon avant d'aller sur les plateaux de l'équipe.
Dans les rues de Paris, étant des campagnards, certains élèves de 5e qui n'étaient pas habitués à traverser en fonction de la couleur du feu ont continué d'avancer en troupeau alors que le feu était déjà passé au rouge.
Évidemment, nous nous sommes fait klaxonner. Arrivant à l'équipe, nous sommes allés aux toilettes qui servent aux présentateurs mais aussi aux présentatrices. Mais malheureusement, les robinets dans les toilettes des femmes ne marchaient plus. Grâce à ça, on est allé se laver les mains dans la salle de maquillage des chroniqueurs. Blandine d'Alençon nous a ouvert les tiroirs où nous avons découvert tous les cosmétiques pour les présentateurs et les présentatrices.
Nous sommes ensuite montés au premier étage où nous avons attendu les autres qui étaient montés à un étage au-dessus. On s'était assis par terre et on nous a offert des journaux. Grâce à Anaïs qui se sentait pas bien parce qu'elle avait saigné du nez toute la matinée, on est allé dans la salle de conférence manger des croissants, des pains au chocolat accompagnés d'un verre de jus d'orange ou de l'eau pour ceux qui en voulaient.
Après avoir profité de ce petit goûter, quatre élèves sont allés interviewer Marc Bombard sur la terrasse. Ils nous ont expliqué avoir vu des grands verres à cocktail remplis de cigarettes. Ça nous a un peu dégoûtés.
Ne vous inquiétez pas, ils s'en sont remis.
On s'est installé sur un petit salon de jardin où il faisait un froid de canard.
À la fin de l'interview, pour rentrer dans le bâtiment, il fallait descendre une haute marche et roulement de tambour. Théo, qui est un journaliste de Bac FM, qui nous a accompagnés pendant toute la journée, a trébuché. Donc c'est sur cette chute que se sont finies les anecdotes de la matinée à Paris.
Pour d'autres potins, allez écouter la chronique de Charlotte et Mathilde.
Nous repassons donc la parole à Anaïs et Thomas.
Merci beaucoup Azé et Noélie, avec tout ce tas d'anecdotes bien détaillées. Vous avez une très bonne mémoire, mais à présent nous allons sortir des coulisses et nous allons nous diriger vers le plateau de l'équipe TV avec nos camarades Nuno et Jade. Bonjour Nuno, bonjour Jade.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous raconter notre matinée passée au sein de l'équipe. En effet, dès notre arrivée, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Blandine d'Alençon. Cette dernière est secrétaire générale de la rédaction et elle a pris le temps de nous expliquer en détail son rôle essentiel au sein de l'équipe. Grâce à ces explications, nous avons pu mieux comprendre le fonctionnement interne de l'équipe.
Ensuite, Blandine d'Alençon nous a fait visiter les plateaux de télévision où sont tournées plusieurs émissions comme l'équipe du soir ou l'équipe de Greg. Ce plateau est équipé de nombreuses caméras, de grands écrans colorés et luminants, créant une atmosphère vraiment professionnelle. Nous avons également remarqué une grande table en verre spécifiquement réservée aux présentateurs et ses invités.
Suite à la visite des plateaux, nous avons pu interviewer Blandine d'Alençon. Voici un aperçu de l'interview.
Comment jugez-vous la place des femmes dans les médias sportifs ?
Ah, c'est un vaste débat. Il y a malheureusement pas beaucoup de femmes aujourd'hui dans le milieu du journalisme sportif, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a moins de filles qui s'intéressent au sport, malheureusement. Il y en a beaucoup aussi qui ont peur et qui se disent qu'elles n'ont pas leur place dans le journalisme sportif, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Le problème, souvent, c'est que les filles ont l'impression d'être obligées d'en faire encore plus et de prouver encore plus qu'elles s'y connaissent, même si elles s'y connaissent souvent très bien. Mais ça a tendance à changer. Ça y est, les mentalités évoluent, les garçons aussi, la mentalité des garçons aussi évolue. Avant, quand une fille arrivait dans une rédaction de journaliste sportif, il se demandait tout de suite si elle venait là juste pour notamment téléfaire de la télé ou si vraiment elle s'y connaissait en sport. Voilà, la mentalité a changé. Aujourd'hui, les garçons aussi se rendent compte que les filles peuvent aimer et connaître le sport. Et donc, il y en a de plus en plus. On est quand même encore en retard, hein, les filles. Il en manque encore. Il y a moins de 20% de filles dans la rédaction aujourd'hui à l'équipe. Mais il y en a de plus en plus. Et voilà, j'espère qu'il y en aura demain encore de plus en plus. Et il ne faut pas que les filles elles pensent qu'elles n'ont pas leur place dans une rédaction. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de garçons qu'on ne peut pas s'épanouir dans ce métier-là.
Combien de temps ont duré vos études pour devenir secrétaire générale de la rédaction télé de l'équipe ?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai un parcours particulier. Moi, j'ai commencé par faire des études pour devenir professeur d'éducation physique. Donc, j'ai passé mon CAPEPS, donc le diplôme pour devenir professeur d'éducation physique. J'ai enseigné un an et en collège et en lycée à Strasbourg. Et puis, je me suis rendu compte que je m'ennuyais un petit peu. Et comme j'avais jamais redoublé, j'étais jeune, j'avais que 22 ans, je me suis dit que c'était dommage à 22 ans de m'ennuyer. Et donc, après avoir passé le CAPEPS et une maîtrise également dans l'éducation sportive, j'ai passé les concours des écoles de journalisme. Et donc, j'ai fait, une fois que j'avais mon bac plus 4, j'ai refait 2 ans d'école de journalisme. Donc mes études ont duré un peu longtemps, mais parce que j'avais pris une autre voie d'abord. Et puis, en fait, on ne fait pas des études pour devenir secrétaire général, on fait des études pour devenir journaliste. Et journaliste généraliste, parce qu'on n'est pas journaliste de sport, on est d'abord journaliste et après on se spécialise. J'aurais pu faire très bien de la politique ou de la société de la polyjustice. Moi, j'ai choisi le sport, mais on est d'abord journaliste globalement. Et après, voilà, j'ai été reporter pendant des années, puis rédactrice en chef adjoint. Donc, c'est une évolution de carrière. Mais aujourd'hui, pour être journaliste, il y a plusieurs options. Il y a des écoles qui prennent les étudiants tout de suite après le bac. Et puis, il y a des écoles qui prennent les étudiants après bac plus 3. Donc voilà, donc ça prend entre 2 ans et 5 ans les études de journalisme, après le bac.
Par la suite, Blandine Alençon nous a conduit dans la régie une salle cruciale pour le bon déroulement du tournage. Cette salle est équipée de nombreux écrans et de dispositifs techniques. La régie est le cœur du tournage car c'est ici que le générique est lancé et que la coordination du son et des images est orchestrée pour assurer une diffusion sans accroc.
Enfin, après avoir exploré l'équipe TV, nous nous sommes dirigés vers l'équipe papier. Pour en savoir plus sur cette partie de l'émission, écoutons Noé et Pierre qui vont nous présenter Simon Boll, un journaliste de cette équipe papier. Je laisse donc la parole à nos présentateurs. Merci de votre attention.
Merci. Alors merci Nuno et Jade de nous avoir parlé de l'équipe TV. On se croyait vraiment là-bas. Accueillis dans les locaux de la chaîne L'Équipe, direction la salle de réunion où nous attendons Simon Boll, Patrick Sweden et un super petit-déj. Nous les avons interviewés dans la grande salle de réunion où on les a trouvés un immense petit-déj avec des croissants, pain au chocolat et jus d'orange. Patrick Sweden et Simon Boll nous ont partagé leur savoir et leurs connaissances. Maintenant, nous allons passer la parole à Noé et Pierre.
Bonjour Anaïs, bonjour Thomas.
Bonjour Guilbeault, bonjour Anaïs et Thomas.
Nous allons vous parler du journaliste de l'équipe Simon Boll. Nous avons eu la chance de connaître Simon Boll, journaliste d'enquête à l'équipe qui a nagé dans le monde du journalisme dès son plus jeune âge.
Oui, en effet, il nous a expliqué qu'après ses 21 ans, il a écrit une centaine d'articles. Il nous a également dit qu'il n'y avait pas de club journal dans son collège, mais il aurait bien aimé en faire un. Puis, il a enchaîné avec plusieurs stages au journal du centre.
Nous l'avons rencontré 2 fois, une fois au collège et une fois dans les locaux de l'équipe à Paris, dans la salle de conférence où nous avons été reçus avec des viennoiseries et du jus d'orange. Cela nous a permis d'en apprendre davantage sur sa personnalité. Ce journaliste qui réalise des enquêtes au journal L'Équipe nous a expliqué qu'il est originaire de la Nièvre. Il a grandi dans la ville de Saint-Benin-d'Azy, où son père est président du club de foot depuis plus de 20 ans.
Il aime jouer aux jeux vidéo, surtout à FIFA. Il a d'ailleurs participé à plusieurs tournois. Il est passionné par le foot et adore les clubs de Ligue 1 avec une grande ambiance, comme le stade Bollard à Lens ou la Beaujoire à Nantes. D'ailleurs, ses articles portent souvent sur ce sujet.
Encore du foot.
Quand il est au stade pendant les matchs, c'est un exercice difficile car il n'a que 30 minutes après le match pour publier un article. Le 8 novembre 2023, il sort son livre sur son club de cœur, l'AJOCR, le plus grand club de Lyon, où il parle de la grande histoire du club, tels que les grands parcours en Coupe d'Europe, avec Pierre-Alexandre Comte. Simon Boll a remporté le prix UJSF de la meilleure enquête ou information en 2023 pour un travail sur les faux papiers dans le sport.
Merci et au revoir.
Merci et au revoir.
Nous allons marquer une courte pause avec la musique Star Swimming par Prop. Ensuite, nous retournons avec Noah et Noam pour l'interview de Marc Bombard.
In the vastness of stars, what do you see? Darkness.
Après l'intervention de Noé et Pierre sur Simon Boll, nous allons maintenant parler de Marc Bombard avec Noah et Noam. Avant cela, nous allons rapidement vous parler de lui. Marc Bombard est le secrétaire général de l'équipe papier. Plus jeune, Marc Bombard s'est occupé de la reprise de RMC Radio et a participé au lancement BFM TV en 2005. Nous vous laissons maintenant avec Noah et Noam pour leur rencontre avec Marc Bombard.
Lors de notre visite à l'équipe, nous avons interviewé cette personnalité. Ça a été l'occasion pour lui de se présenter, de nous parler de son métier et de retracer l'historique de l'équipe.
Oui, en effet, Noah. Marc est secrétaire général de la rédaction en chef du journal L'Équipe. Il a commencé sa carrière en alternant en presse écrite au CFJ. Il a ensuite été à Next Radio TV, puis s'est décidé à rejoindre et de contribuer à la rédaction de BFM TV, où il a beaucoup évolué. Peu de temps après, le directeur de la rédaction de l'équipe lui a proposé de le rejoindre à son tour. C'était pour lui un défi personnel car il n'était pas un expert en matière de sport.
Marc nous a livré un secret, alors écoutez bien. Selon lui, un bon journaliste doit être fort en orthographe, empathique et il doit aussi aimer raconter des histoires. Marc estime que les médias sont intéressés par les jeunes, lesquels peinent pourtant à utiliser les médias traditionnels. Noam, je crois que si un jour nous souhaitons devenir journaliste, nous avons des progrès à faire en matière d'orthographe. Mais continuons notre chronique.
Je suis d'accord avec toi. Sachez aussi que Marc Bombard s'occupe de différents aspects du journal, notamment les ressources humaines, le numérique, l'administration, le budget, mais aussi de divers sujets quotidiens.
Maintenant, faisons un point sur le journal. Sachez que l'équipe est composée de 260 journalistes en CDI. C'est une grande rédaction, mais elle demeure néanmoins plus petite que celle du journal Le Monde ou Le Figaro. C'est un média complet qui regroupe le quotidien, le journal papier, la chaîne TV, le site, les réseaux sociaux et les magazines.
Enfin, Marc nous a confié que pour lui, il y avait beaucoup plus de travail dans la presse TV, car les chaînes se sont énormément développées depuis l'arrivée de la TNT gratuite. Il ne va pas sur le terrain, mais il essaye d'aller voir les reporters sur le Tour de France, notamment. Dans son travail, il est très important de rester connecté et de faire en sorte que les reporters voyagent dans de bonnes conditions.
Un point sur les Géants avant de conclure. Comme vous le savez, chers auditeurs, les Jeux Olympiques de Paris est l'événement sportif le plus important dans l'histoire du journal. L'équipe comptera plus de 70 reporters appelés à couvrir cet événement. C'est un chiffre très important, car pour les JO de Londres, il n'était que 50. Ils espèrent une très large diffusion de ventes de journaux, être les meilleurs, avoir les meilleures photos et les meilleurs articles. C'est l'événement du siècle pour eux. Nous ne manquerons donc pas de suivre leur article.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions. Comment êtes-vous devenu secrétaire général de la rédaction papier de l'équipe ?
Alors, bonjour. Merci beaucoup de venir nous rendre visite à l'équipe. Je suis devenu secrétaire général de la rédaction de l'équipe parce que le directeur de la rédaction m'a proposé de venir travailler avec lui. Je l'avais rencontré parce que j'occupais des fonctions similaires à BFM TV à l'époque, en 2009. Et j'avais fait sa connaissance parce qu'il était directeur d'une école de journalisme. Et à l'époque, je recrutais énormément, donc on avait sympathisé. Il a pensé que je pourrais être utile ici. Donc il m'a proposé de venir. C'est comme ça que je suis arrivé ici, fin 2009. Donc ça fait déjà un certain temps, presque 15 ans. Et donc voilà, vous n'étiez pas encore né.
Avez-vous toujours eu envie de faire ce métier ?
Alors, pas du tout. Moi, mon métier, c'est un métier qui est assez rare. C'est-à-dire que vous connaissez tous le métier de reporter, par exemple, ou de boulanger, ou de pâtissier, c'est des métiers connus. Secrétaire général de rédaction, c'est pas très banal. Non, moi, quand j'avais votre âge, je voulais faire deux métiers. Je voulais être vétérinaire architecte. Donc, je pensais qu'il fallait faire les deux, mais bon, c'était pas très réaliste. Et ensuite, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire. J'avais pas d'idée. Je suis arrivé, j'ai passé le bac, j'ai fait des études, une prépa de lettres parce que j'avais des parents profs, donc je me suis dit j'apprends des choses en attendant, mais je ne savais pas ce que je voulais faire, c'était vraiment un problème. J'ai arrêté mes études de lettres, j'ai travaillé dans un restaurant comme plongeur, puis comme serveur. Ensuite j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. Et j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelait une formation en alternance. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça consiste à suivre des études tout en travaillant et en étant payé. Et donc, j'ai un peu par hasard, je me suis retrouvé à faire des études en alternance, en apprentissage, on dirait aussi, dans une école de journalisme. Et j'ai fait ça. Ensuite, par le biais des rencontres, des opportunités, des gens qui m'ont donné ma chance, j'ai pu changer de journal, de média, j'ai travaillé en télévision. Et du coup, c'est vraiment les hasards de la vie, les opportunités qui ont fait que finalement je me suis retrouvé dans cette fonction aujourd'hui là, sans l'avoir imaginé quand j'avais votre âge. Je n'imaginais pas arriver là.
Avez-vous participé à une classe média ou un club journal quand vous y étiez plus jeune ?
Alors, dans mon souvenir, je pense qu'effectivement, quand je devais être en troisième, on a dû tenter de faire un journal du lycée, mais je pense qu'on a fait qu'un seul numéro. Et à l'époque, je pense que les classes médias n'existaient pas. Mais effectivement, il y avait des journaux écoles. Mais je pense que l'éducation nationale, les profs nous aidaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je vois que c'est structuré, que vous avez des enseignants qui sont très engagés et avec une philosophie de l'éducation aux médias qui est très développée. À l'époque, c'était vraiment, très très réduit. Non. En revanche, je pense que les médias étaient beaucoup plus présents dans nos vies à l'époque, quand j'ai grandi dans les années 70-80, parce que il y avait des journaux, je voyais mes grands frères, grandes sœurs, parents lire des journaux, alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus rare, et d'où l'importance aussi de cette éducation aux médias.
La presse et ce métier de journaliste peut-il avoir un impact aussi bien positif que négatif sur votre vie privée ?
Je pense que tout travail a potentiellement un impact sur la vie privée, que ce soit parce qu'on doit déménager ou parce que on travaille beaucoup ou on n'a pas de travail, et du coup ça peut, quand on est au chômage, ça peut impacter aussi la vie privée parce que ça complique la vie quotidienne, la vie de famille. Donc, je pense que la question, si elle s'adresse à des reporters ou à des photographes qui sont tout le temps sur le terrain, elle est très pertinente, parce que je vois les photographes, par exemple, ils travaillent 190 jours par an, mais c'est 190 jours où ils sont loin de la maison. Donc il y a beaucoup de photographes qui ont eu des épouses qui en ont eu marre, parce qu'elles géraient tout toutes seules, les enfants, elles ne voyaient pas leur mari. Et quelquefois les maris ça leur coûtait, les enfants, la famille leur manquait aussi, et d'autres fois ils étaient aussi, pour d'autres peut-être ils donnaient l'impression à la famille d'être contents de ne pas être là et de vivre leur vie, et puis ils laissaient la famille se débrouiller. Donc il y a beaucoup de photographes ou même de reporters qui ont pu avoir des problèmes de famille potentiellement graves à cause de leur travail. Moi je dirais que j'ai un travail plus classique de bureau, travaillant à Paris, vivant à Paris, je dirais que non, j'ai pas eu d'impact négatif. J'ai longtemps énormément travaillé, donc peut-être qu'effectivement ça a eu un impact, ça m'a peut-être empêché de construire quelque chose un peu plus tôt, mais je dirais que ça a eu un impact positif, en tout cas dans ma vie privée aussi.
Est-ce que vous avez déjà été menacé dans le cadre de votre travail ?
Alors, il y a beaucoup de reporters de l'équipe qui sont menacés. C'est un problème très préoccupant, effectivement, de voir, notamment depuis les réseaux sociaux, qui ont vraiment développé un climat où des gens n'hésitent pas à insulter, à parler de manière dont on se parle pas comme ça normalement dans la vraie vie. Avec des cas potentiellement graves de menaces de mort pour des sujets quand même très peu, qui méritent pas forcément cette violence. À titre personnel, non, j'ai pas le souvenir d'avoir été menacé dans mon travail, mais les journalistes, oui, peuvent l'être. Ouais. C'est un sujet très grave.
Y a-t-il plus de travail dans la presse papier que dans la presse TV ?
Alors, clairement, il y a plus de travail dans la presse TV. Les chaînes se sont beaucoup développées, notamment depuis la naissance de ce qu'on appelle la TNT gratuite, qui date des années 2005. Donc, il y a eu une explosion du nombre de chaînes. Parce qu'il faut imaginer qu'avant 2005, vous aviez un nombre de chaînes très réduit, en tout cas en accès gratuit. C'était 6 ou 7 chaînes. Et là, maintenant, je ne sais pas à combien on en est, mais on doit être à 30 ou 35 chaînes gratuites. Donc là, ça a créé, et notamment pas mal qui font quand même de l'information. Donc ça a créé un appel d'air qui a permis à beaucoup de jeunes journalistes de trouver du travail. Et la presse écrite, dans le même temps, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que la presse écrite était très puissante. Moi, j'ai travaillé dans un journal qui s'appelait France Soir, et qui, dans les années 70, embauchait 2000 personnes. Donc il faut imaginer une entreprise de 2000 personnes, ça devient quand même très important. Et ça illustre la puissance de cette presse écrite à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. L'économie est plus... Nous, on a du mal à embaucher des gens. Il peut y avoir du travail dans la presse écrite ou même dans la presse numérique, mais il faut être vraiment les meilleurs pour trouver du travail. Et moi, je suis souvent assez triste de voir
des centaines, des milliers de jeunes gens qui sont formés aux journalistes dans des écoles qui coûtent cher et dont je ne sais pas comment ils vont trouver du travail parce que nos capacités d'embauche sont vraiment pas à la hauteur du nombre de jeunes journalistes qui sont formés en presse écrite.
Et pour terminer, notre dernière question, pour l'équipe, qu'espérez-vous des JO ? Ah,
bien sûr. Avec le ton, hein. Avec le ton radio. C'est les JO à Paris, c'est l'événement le plus important de l'histoire du journal. Ces jeux vont avoir une répercussion mondiale et l'équipe étant un ancien journal de sport connu et respecté, y compris dans le monde, puisque j'étais aux Jeux Olympiques de Londres, hein, j'ai assisté les journalistes dans la logistique et je participe de temps en temps à des réunions avec des journalistes du monde entier, notamment pour l'organisation des grands événements, et la notoriété de l'équipe est forte. Il y a beaucoup de journalistes dans le monde qui ont eu envie de faire journaliste de sport parce qu'il y avait la réputation de l'équipe, parce que l'équipe, à un moment donné, a inspiré une manière de faire journaliste de sport. Donc évidemment, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais la notoriété du journal est toujours très forte. Donc pour nous, on a le sentiment d'être au cœur d'un événement mondial, d'être connu en France comme un des principaux médias de sport, sinon le principal. Donc on a pas mal de pression. On a mobilisé des moyens extraordinaires puisqu'on aura 70 personnes, reporters, photographes, qui seront sur le terrain pour couvrir les Jeux. C'est un chiffre extrêmement important pour nous. À Londres, on était 50. Donc il y a très très longtemps qu'on n'a pas été aussi nombreux pour couvrir les Jeux Olympiques. Et on espère une diffusion, des ventes de journaux plus importantes, on espère des recettes publicitaires, on espère surtout de réussir la couverture, c'est-à-dire d'être les meilleurs, d'avoir les meilleures photos, les meilleurs articles, les meilleures confessions de médaillés, les meilleures enquêtes, les meilleures analyses. Donc il y a une très très forte mobilisation de la rédaction papier autour de cet événement, et des Paralympiques aussi bien sûr, puisqu'on va accorder à la couverture des Jeux Paralympiques, des moyens qu'on n'avait jamais mis avant sur les Paralympiques. Donc c'est vraiment l'événement du siècle pour nous, comme un mariage royal.
Merci de nous avoir écoutés. Nous laissons la parole à nos camarades.
Merci Noah et Noam. Tout de suite, Mathilde et Charlotte arrivent avec plein d'anecdotes en espérant qu'elles ne sont pas bloquées dans l'ascenseur. Ça peut être drôle, mais c'est ce qui arrivait à nos camarades en allant à l'équipe papier. On pensait qu'il y avait plus de boutons dans cet ascenseur que sur les claviers d'ordinateur du CDI. En retournant l'équipe TV, des camarades se sont retrouvés coincés dans l'ascenseur et d'autres se sont trompés de sens. Nous nous sommes retrouvés dans l'ascenseur avec des journalistes qui nous ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient des personnes aussi jeunes au local. Et maintenant, nous laissons la place à Mathilde et Charlotte.
Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Charlotte et nous allons vous raconter d'autres anecdotes qui se sont passées à Paris. Et il s'en est passé des choses.
Alors, préparez les pop-corns et installez-vous confortablement.
Pendant cette journée à Paris, nous avons pique-niqué dans un parc au bord de la Seine. En mangeant nos sandwichs, nous avons aperçu une dizaine de bus comportant des militaires et des policiers. C'était impressionnant de voir autant de policiers et de militaires en à peine 3 minutes.
En effet, c'était impressionnant. L'après-midi, nous avons également visité France TV. Pour plus d'informations, nous vous invitons à écouter l'émission des 5e B, que vous pouvez retrouver également sur Bac FM. Ils vous raconteront leur demi-journée, comment ça s'est passé et des petites anecdotes s'ils en ont.
Sur le trajet retour en bus, notre professeur d'histoire, géographie et d'EMC, Monsieur Bertin, qui était monté dans l'intention de nous calmer, nous a finalement fait écouter ses goûts musicaux.
Nous avons aussi eu l'honneur d'assister à plusieurs danses de sa part. Puis, nous nous sommes arrêtés sur un aire d'autoroute pour pouvoir dîner. Certains camarades, pendant le repas, ont dû garder un bébé.
Oui, le père de l'enfant a demandé à nos camarades Nuno et Noah de garder son enfant nommé Clovis pour qu'il puisse aller acheter quelques paquets de chips.
Nous avons vraiment passé une incroyable journée. Nous allons maintenant laisser la parole à nos camarades.
Au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Nous remercions Mathilde et Charlotte pour leur chronique. Vous remarquez que cette sortie à Paris a beaucoup plu aux élèves. Elle nous a appris plein de choses sur le métier du journalisme et on s'est bien amusés. Beaucoup de petites anecdotes ont aussi rythmé notre voyage. Nous remercions Bec FM ainsi que les personnes qui ont géré la technique pour toute leur aide apportée au projet. Nous remercions aussi Monsieur Bertin de nous avoir permis de réaliser cette émission. C'est ainsi que se termine cette émission pleine de joie, de bonne humeur et d'humour. Nous vous souhaitons une bonne et agréable journée.